Mardi 9 septembre, bienvenue à cette première émission de l'aérospatiale pour la saison d'automne 2014. Julie Gagné, très contente d'être avec vous après une longue pause estivale. Et bien entendu, on se reprend de plus belle pour cet automne. Ma foi, fort prometteur avec moi, Jacques Gignac, à la mise en onde. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Thérèse Beaudoin, conservatrice au Musée de la civilisation du Québec, pour parler d'exposition Les maîtres de l'Olympe. Également, Jean-Tiane Lafrance fera une chronique sur l'exposition Les œufs de Jacinthe Carrier à la bande vidéo. On discute avec Richard Martel au sujet de la 18e édition de la Rencontre internationale d'art performance. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et j'accueille à l'instant Simon Roy. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette nouvelle saison, Simon.
Ben oui, je m'ennuyais, là. J'avais hâte de revenir.
Ben voilà, ça y est. Nous aussi, d'ailleurs, on s'est ennuyés. Qu'est-ce que tu as choisi pour cette première émission?
J'ai choisi un album au titre qui, je pense, a porté à confusion un petit peu. C'est un album donc intitulé « An Error Occurred While Processing This Directive ». C'est par l'Australien Tuonela. C'est de la musique électronique expérimentale qui se rapproche beaucoup du noise drone. Donc, c'est des expérimentations avec des filtres et toutes sortes de trucs. Ça va un peu dans toutes sortes de directions. C'est surtout peut-être ambiance un peu cauchemardesque ou planant. Je sais pas trop comment le décrire. C'est un album qui m'a accroché l'oreille cette semaine.
Simon t'a dit il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Je dois avouer que j'ai trouvé particulièrement ironique d'avoir eu un problème de téléchargement avec cet album-là. Ça m'a vraiment fait rire. Je me suis dit, voilà, ça arrive jamais. Mais là, fallait que l'album s'appelle « An Error Occurred While Processing This Directive ».
C'est ça, les auditeurs aussi vont pouvoir le télécharger de façon gratuite en se rendant sur le blog de l'émission.
Voilà, l'aérospatiale.wordpress.com. Simon Roy, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Donc, on écoute tout de suite un extrait. On écoute Exit Strategy sur les ondes de CKRL. De retour à l'aérospatiale, j'accueille Raymond Poirier pour la revue de presse. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Là, il a dû s'en passer des choses cet été. T'as dû avoir une certaine difficulté à sélectionner tout ça.
Mais je me suis dit, en fait, pour commencer peut-être cette revue de presse, choisissons justement des événements estivaux qui concernent des centres d'artistes un peu partout au Québec. Tiens, juste une petite mise à jour de petites modifications. Et on en commence avec une qui s'est passée aujourd'hui, en fait, du côté de Méduse, à l'approche de son 20e anniversaire. Eh bien, on apprend dans le Soleil que Méduse a stabilisé son avenir. Donc, la mairie de la capitale a accepté d'étirer le bail de la coopérative. Ça va lui permettre de rester sur la côte d'Abraham pendant encore au moins 30 ans. Évidemment,
belle nouvelle, hein?
C'est une belle nouvelle. Ça donne un souffle nouveau aussi à certains projets, justement, qui étaient du côté des différents centres et surtout du côté de la coopérative. Ça donne un peu plus de marge de manœuvre aussi. Et ben voilà, donc ça veut dire que l'installation dans l'état où elle est, du moins en termes organisationnels, est encore là pour plusieurs années. Sinon, tiens, on passe du côté du Centre Clark. Les membres du conseil d'administration du Centre ont annoncé la venue de Roxane Arsenault à titre de nouvelle coordonnatrice de la programmation. Alors, on parle évidemment de continuité dans tout ça et objectif de travailler à développer des projets structurants et fédérateurs. Bon, Madame Arsenault, elle s'est illustrée dans différents organismes, magazines et publications, entre autres. Et on dit qu'elle s'est surtout intéressée, dans le cadre de ses études en histoire de l'art, à la représentation, l'exotisme et la restauration. Elle est impliquée dans plusieurs instances médiatiques également. Alors, on verra quel souffle elle amènera du côté du Centre Clark. Du côté de Circa, on parle d'une nouvelle image. Donc, Circa qui est devenue Circa Art Actuel, un nouveau nom qui, nous dit-on, sur le site du RCAAQ, coïncide avec les diverses transformations des salles. Donc, on parle d'un choix qu'on dit audacieux de réduire de 2/3 la grande galerie, de réinjecter des sommes dans la programmation également, donc pour avoir plus d'expositions doubles, plus de grande variété aussi au niveau de la programmation. Et enfin, pour cette petite tournée, on parle aussi d'Articule, nouvelle coordonnatrice à la programmation de ce côté-là, Eunice Bélidard. Donc, elle est issue de la relève artistique montréalaise. C'est une commissaire indépendante, c'est une auteure. Et c'est surtout faire connaître du côté de Toronto, où elle avait travaillé à la galerie d'art contemporain des Power Plant. Et donc, elle s'est joint à l'équipe au fil de l'été. Quand même, Articule, 35 ans d'existence là, pour ce centre d'artistes. Alors voilà pour ces nouvelles-là, et sinon je me suis dit, soyons thématiques aussi, la place de l'art dans le financement public, on parle quand même d'austérité ici, on parle aussi évidemment d'austérité ailleurs. Alors, la question c'est de voir comment réagit-on avec l'austérité et de quelle manière l'art peut avoir une influence là-dessus, et c'est pas une influence nécessairement positive pour la pérennité des collections publiques, on s'entend. Mm. L'exemple premier, c'est du côté de Détroit. En fait, on apprend que pour que la cité américaine évite la faillite, la précieuse collection de 66 000 objets de l'Institut d'art pourrait être mise en gage pour 3 milliards de dollars. Alors Détroit qui dit essentiellement, bah, regardez, pour nous sauver, pour sauver la ville, on va hypothéquer notre collection d'œuvres d'art, donc avec la collection publique. On a prévu donc un grand bargain qui consiste à récolter une somme de 800 millions de dollars pour protéger les pensions des retraités et empêcher évidemment la vente de la collection du musée municipal. Mais bon, si on l'hypothèque, c'est aussi qu'on ouvre la porte à une éventuelle ouais, possibilité de ne pas réussir à recueillir les fonds et donc d'être obligé de vendre la collection d'art pour financer les retraites.
C'est du gambling, hein?
C'est du gambling. Et sinon, il y a le Portugal aussi qui fait un certain gambling, Julie. C'est la collection d'œuvres de l'artiste espagnol détenu par l'État, donc l'artiste espagnol Joan Miró, qui ne sera pas classé patrimoine culturel, donc qui pourra se retrouver aux enchères. Donc c'est l'État portugais qui avait dit, ben regardez, on n'a pas envie de classer ces œuvres-là patrimoine culturel. On veut pouvoir les vendre, on veut se donner la liberté d'utiliser cette collection-là pour renflouer nos coffres administratif. Et finalement, ben, ils ont réussi à obtenir vendredi dernier le droit de ne pas justement faire ce classement-là, que cet artiste-là ne soit pas reconnu comme un patrimoine national du Portugal. Et donc, ben voilà. Donc, c'est un classement qui aurait rendu évidemment difficile la sortie des œuvres du territoire, la vente aux enchères des œuvres. Et les Miro, qui appartiennent à l'État depuis la nationalisation de la collection en 2008, devraient être vendus au fil de l'année à Londres pour renflouer les caisses du Portugal. On le rappel frappé par la crise économique, par une politique d'austérité également. Il y avait eu première annulation d'une vente prévue en avril. Et donc là, les cartes se replacent. Alors ben voilà, on espère aller chercher à peu près 30 millions de livres, donc à peu près, mettons, 45 millions de dollars pour la vente des 85 œuvres de Miro qui appartiennent à l'État portugais.
C'est triste, hein?
Oui, mais en fait, comme quoi le fait qu'un État détienne des collections d'art ne garantit plus leur pérennité en tant que bien public, mais devient plutôt, au bout du compte, à l'image des investissements privés qui sont faits, donc devient plutôt un investissement dans lequel on espère investir pour obtenir des dividendes en cas de crise et ou de difficulté.
Eh bien, Raymond Poirier, merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Vendredi, tu fais ta première émission de la vie en BD, oui. La vie en BD.
On est tous de retour. On parlera de la BD documentaire, entre autres.
Voilà, l'invitation est lancée. Vendredi, 17h30, on fait une pause audio, on écoute What Does This Button Do? Et au retour, on discute avec Richard Martel. Voilà, alors le 11, donc jeudi cette semaine, débute la rencontre internationale. Voyons, j'ai de la misère avec mes mots. La rencontre internationale d'art performance. Et pour en discuter, son directeur artistique, Richard Martel, bonjour.
Bonjour.
Ça approche à grands pas, c'est après-demain. Est-ce qu'on est dans le jeu des préparations?
Ben, les derniers ajustements, c'est comme n'importe quel événement. On a toujours des hauts, des bas, puis des petits problèmes, puis des réussites, etc. Bon, c'est les gens arrivent un arrière de l'autre, là, puis demain, la majorité pour la première semaine, parce qu'on fait ça sur deux fêtes de semaine, deux, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ça nous laisse aussi 3 jours de repos entre les deux. Ouais. Ce qui est salutaire aussi, mais en même temps, ça nous permet au niveau de la logistique de pouvoir avoir deux groupes. Donc, c'est aussi, ça se fait bien et ça nous permet aussi d'orienter les prestations à partir pas de conflit, mais du moins de voir des différences, surtout comme la première semaine, finalement, avec les Polonais et puis les Norvégiens. Pardon, les Philippines.
Les Canadiens
c'est
aussi.
C'est ça fait des gens d'Asie, des gens d'Europe, ex-Pologne, ex-pays de l'Est, mélangés aussi avec Philippines, avec un peu plus de problèmes économiques, bon, etc. Bref, on se pose aussi beaucoup les questions sur la manière que les artistes s'expriment. Si c'est aussi en fonction des critères culturels qui sont dans leur pays.
C'est la troisième fois, hein, je pense, que vous avez cette thématique-là des pays.
Ben, ça va être commencé comme la quatrième, 2010? Finalement. En fait, c'est à partir de 2008, quand on fait la caravane de la parole, où là, c'était 100% francophone pour la raison de 2008, c'était l'anniversaire de Québec. Alors, on avait orienté vraiment une sélection très francophone, sauf qu'il y avait beaucoup de pays différents, autant Haïti que le Maroc, que l'Italie même, et bon, la France, évidemment, la Belgique. Tandis que après coup, moi, c'est une idée que je ne sais pas c'est pourquoi. C'était peut-être après 17 ou là, c'est le 18e événement, c'est sûr. Que,
c'est majeur.
Ben, ça fait. On est le plus vieux festival au Canada, mais en même temps, je me suis posé la question si c'est. Au lieu d'inviter des artistes individuels, en invitant les artistes par sélection géographique, du moins par une sélection d'ordre géographique, ça nous permet peut-être de voir aussi s'il y a des affinités entre les artistes ou du moins s'il y a des grosses différences peut-être aussi avec d'un pays à l'autre. On l'a vu aussi. On l'a vu dans le dernier festival, entre autres avec les gens d'Uruguay par rapport aux gens même de l'Espagne. Mm-hmm. C'est un pays quand même, ce sont deux pays où on parle espagnol, là, mais on voit que les conditions économiques et autres, surtout dans des pays comme Uruguay et Argentine, ces pays-là, au Brésil, qui ont eu des dictatures militaires pendant longtemps.
Mais oui.
Donc, on voit que ça déteint effectivement sur le fonctionnement puis sur la façon de fabriquer évidemment l'art et la culture.
Puis c'est intéressant aussi ces soirées-là par pays parce que là on se plonge vraiment dans des ambiances certainement différentes dans chacune des performances, mais on se dépayse aussi là, complètement parce qu'on entre dans des univers
oui, puis
qu'on
en même temps,
pas,
mais c'est quelqu'un qui me disait ça justement hier, il dit « Ah tiens, une soirée d'artiste de Cuba, performance de Cuba, c'est pas souvent qu'on peut avoir accès à aussi. C'est donc un autre critère pour lequel la sélection par géographie, par zone géographique est bien. C'est que ça permet évidemment d'avoir une certaine forme d'originalité, comme on l'a vu les dernières éditions où on a eu la Corée, la Chine, Singapour. Je sais pas si on va finir par faire le tour au complet, là, et je me pose aussi la question pour les prochaines éditions, si on doit continuer comme ça à faire les zones géographiques ou peut-être, ce sera peut-être aussi un jumelage de ville à ville.
Mais
ça
ouais.
pourrait être effectivement New York, ou ça pourrait être Los Angeles, ou ça pourrait être Berlin, peut-être, une autre édition. On se pose, moi personnellement, je me pose ces questions-là aussi. Mais pour l'édition présente, évidemment, avec Philippines, Pologne, Norvège, Cuba, et évidemment, 4 villes canadiennes. Donc, c'est sûr que 4 villes de ce que j'appelle la côte ouest, en fait, c'est aussi, je me suis aperçu pour avoir donné des workshops dernièrement à Calgary et aussi avoir fait de la perf à Victoria, à West Coast, que les problèmes qu'on a aussi à Québec, où les gens vont beaucoup à Montréal et tout ça, je me suis aperçu que c'est la même chose au niveau du Canada anglais. Les gens de Calgary, ils restent pas à Calgary. Ils vont soit à Toronto, mais à Vancouver. Les gens de Regina, les gens de Winnipeg, les gens de Victoria, c'est la même chose. Ils vont soit à Vancouver ou soit à Toronto. Donc, je me dis, si on veut garder nos artistes ici, c'est peut-être aussi de leur donner la possibilité d'être actifs, etc., etc. Puis en même temps, je voulais voir effectivement si les problèmes qu'on a à ce niveau-là, c'était les mêmes qu'ils ont aussi dans ces villes que j'appelle des villes intermédiaires finalement, mais qui sont aussi des capitales de province en passant. Alors, c'est sûr que je ne dis pas qu'on fait des liens entre Québec et ces villes-là, mais
on se questionne, on essaie de voir.
C'est ça, on essaie de voir effectivement s'il y a des critères. guerre aussi entre civils-là, s'ils sont tous, autrement dit, s'ils pensent tous de la même manière ou sont vraiment différents, je ne sais pas. C'est une manière de faire le festival qui nous permet aussi de vérifier ces choses-là.
Puis il y a des discussions les dimanches à 13h au lieu qui permettent justement de revenir sur les soirées, de voir s'il y a des parentés, des oppositions et tout ça. Je pense que ça a été assez riche et fécond là, par le passé. On oui. s'attend sûrement à ça aussi cette
oui,
année.
Oui, c'est grâce à une collaboration du CELAT de l'université. Ça fait la troisième fois qu'on a cette collaboration-là. Bon, il y aura animation avec Michael Lachance qui est sur notre comité de rédaction depuis très longtemps. Et aussi Constanza Camelo, qui, elle, aussi fait de la performance et prof à Chicoutimi, à l'UQAC, en art, et qui enseigne sur la performance et appelons ça les espèces de manœuvres artistiques. Donc, c'est sûr que ça amène de l'eau au moulin. Je veux dire, c'est sûr que les deux dernières publications, en plus d'avoir un relevé des performances, il y a aussi, donc, cette espèce de relevé de discussion sur la situation dans ces pays-là. Alors, c'est sûr que c'est pas complet, ça peut pas l'être non plus, mais c'est un son de cloche qui peut nous ameuter, ou du moins nous aiguillonner sur la manière dont ces gens-là peuvent aussi s'exprimer. Ça m'était venu aussi à l'idée que lorsque j'avais, je pense c'est en 2006 ou 2004, on avait fait venir entre autres des gens de Zagreb et Bogdanovic, je me souviendrai toujours, l'artiste avait présenté une sélection d'artistes de Serbie, et à 80% les gens qui faisaient des actions se mutilaient ou se faisaient des violences physiques. Mais on voit bien que dans des situations conflictuelles comme ça, on dirait que c'est comme des aliments qui font que les artistes s'expriment plus davantage d'une manière un peu plus violente, beaucoup plus sur le corps, etc. Donc, souvent, on a remarqué aussi que les gens de la côte ouest sont plus influencés par les médias, par le spectacle.
Ouais, ouais.
Donc, c'est plus joyeux, c'est plus humoristique. Les Polonais sont plus conceptuels. Ça dépend. Les Philippinois sont aussi beaucoup plus politiques. Mais évidemment, la situation politique, là-bas, il y a encore de la guérilla dans la jungle, bon, etc. C'est des pays conflictuels. Donc, ça, c'est une manière aussi de ce que ces gens-là ont d'exprimer leur réalité culturelle. Le festival comble une espèce de manque à ce niveau-là, parce que beaucoup de festivals où j'ai participé personnellement dans plusieurs festivals, on n'a pas ce discussion-là. Comme la plupart du temps, c'est des festivals avec des appelons ça des soirées hybrides, avec, je sais pas moi, un Allemand mélangé avec un Français, un Belge, je sais pas, un Singapourien. Donc, les gens se posent pas la question de la culture. Mais le fait d'orienter avec une sélection culturelle nous permet de poser la question aussi. Et ça permet souvent aux artistes de mieux s'identifier par rapport à leurs critères culturels. Ce qu'on a remarqué d'ailleurs, si on l'a remarqué dans les deux
dernières éditions. Ils restent pas juste pour leur performance, ils doivent regarder les performances des autres aussi, être là pour les discussions, ça doit quand même enrichir leur réflexion.
Pas juste pour la discussion, le fait que tu disais, bon, c'est une soirée, on l'a vu par exemple dans la soirée coréenne il y a 4 ans, où lorsqu'il y avait une des coréennes qui a fait une espèce de performance en costume traditionnel avec musique traditionnelle, c'était sympathique. Mais par rapport à la performance qu'on est habitué de voir, c'est un peu, pour nous, un peu bizarre de voir quelqu'un comme ça avec un costume traditionnel tout en couleur, avec l'espèce de musique coréenne. Bah, si ça avait été à l'intérieur d'une soirée thématique coréenne, c'est comme si c'était la motivation que cette personne-là s'est sentie obligée peut-être
de traiter de la question identitaire.
Effectivement. Alors peut-être, c'est pas. Si ça les suscite, les artistes qu'on invite, tant mieux, ou tant pis, je ne sais pas. Bref, on pose la question.
Puis, justement, parlant d'artistes, là, dans les années passées, je me rappelle en 2010, notamment, là, il y avait eu des problèmes avec une artiste, je pense que c'est une artiste coréenne qui avait 28 ans et qui n'était pas mariée, puis là, ben, elle s'était vue refuser l'accès au Canada. Est-ce que là, pour l'instant, ça a l'air de bien aller, les visas? On s'attend à ce que tout le monde soit là.
C'était une artiste chinoise.
Chinoise, ah oui, c'est
mais
ça.
Mais qui, effectivement, qui n'est jamais venue au festival. D'ailleurs, c'était elle qui était sur l'affiche, en plus. Mais c'est arrivé aussi le dernier, en 2012, où là, c'est les Birmans qui sont pas venus, personne n'est venu, parce que leur visa n'a pas été émis à temps. Et évidemment, c'est très compliqué. À l'époque, il n'y avait pas d'ambassade dans leur pays.
Mais
cette
ouais.
année encore, on a eu des petits problèmes, mais on s'était pris un peu plus tôt, comme on dit. Donc, on a réussi à con. C'est sûr qu'il y a une des premières artistes cubaines qu'on avait sélectionnée, qui vivait en Allemagne, mariée avec un Allemand, mais que le visa lui était refusé. Sous prétexte qu'elle n'a pas de salaire régulier, qu'elle n'a pas de maison, qu'elle n'a pas d'auto, je ne sais pas. Il y a plein de critères. Et en plus, il n'y a plus d'émission de visa en Allemagne. C'était habituellement à Berlin, mais Maintenant, il faut que tu envoies ton dossier à Düsseldorf par Internet. Comme ça, eux, ils l'envoient après ça à Vienne et le visa lui était refusé. Donc, il a fallu évidemment qu'on se revire de bord québécois pour trouver quand même quelqu'un pour venir au festival. Alors, c'est ça qui est toujours l'inconvénient de cette sélection dans les zones un peu plus conflictuelles. C'est sûr que ce serait plus facile de faire venir des Américains, des Français, ou là, les gens, ils n'ont pas. Comme les Norvégiens, ils n'ont pas de problème de visa, donc on n'a jamais eu aucune intervention à faire de ce côté-là. Mais c'est sûr que dans le cas des Cubains, bon, il faut écrire à l'ambassade, leur solliciter pour qu'ils donnent le visa aux artistes. Aux Philippines, ça a été la même chose. Donc, il y a toujours des petites contraintes à inviter des artistes de pays conflictuels, ou du moins de pays sous-développés, si on peut dire ainsi.
Puis la sélection, elle est faite, entre autres, par des commissaires, en fait, originaires de chacun de ces pays-là. Ça doit être intéressant, après, de voir qui ont choisi, pour quelles raisons et tout ça. Vous dites que c'est plus authentique aussi dans la
C'est une théorie que j'ai, que ça s'appelle le réseau éternel. Filiou avait parlé le réseau éternel. C'est-à-dire, l'idée, c'est que les artistes ont des relations en réseau, mais ces réseaux-là, autrement dit, si ça ne faisait 100% personnellement de la sélection, ça serait la sélection de Richard Martel, de mon goût personnel. Ouais. Non, je me dis que les gens doivent avoir un peu plus largement d'expérience sensitive et sensorielle et haute, esthétique, je ne sais pas. Donc, l'idée que ce soit des correspondants, ou du moins, et la plupart du temps, on connaît ces gens-là, on sait qu'ils sont dans leur pays respectif, appelons ça presque des autorités. Donc, c'est sûr que ça nous permet et pour nous, c'est un peu une surprise, parce que la plupart des artistes, on ne les connaît donc pas. Et en même temps, ça donne aussi aux gens je donne l'exemple de Kurt Johannessen, qui est norvégien, qui lui organise aussi un festival en Norvège. Donc, je me dis, s'il organise un festival, il doit connaître aussi son milieu. Et en plus, ça le valorise auprès du milieu, de dire, tu vois, j'ai fait la sélection des artistes pour aller dans un autre festival international. Donc, ça consolide aussi le milieu. Et ça permet souvent aux artistes de pouvoir justifier d'aller chercher une lettre dans leur pays. Parce que quand tu invites quelqu'un par pays, tu dis, je suis invité dans un festival international, comme Norvégien, on est 4 Norvégiens, est-ce qu'à ce moment-là, on peut faire une...
financière.
Voilà. C'est plus facile, comme c'est arrivé la dernière fois avec les Suisses, où là, c'est moi, veux dire avec le lieu, qui a fait la demande directe à Pro Helvetia, l'organisme suisse, pour payer le transport des artistes de la Suisse. C'est même pas les artistes qui l'ont fait eux-mêmes. Donc, c'est sûr que ça c'est plus solide quand ça vient de cette manière-là, pour faire impliquer, autrement dit, les institutions dans les autres pays aussi. Parce que nous, vous savez, on est assez développé ici au Québec avec notre Conseil des arts et lettres, notre Conseil des arts du Canada, etc., les programmes, la ville, etc. Donc, il y a bien des pays qui n'ont pas ça. Là, hein. Aux Philippines, oublions ça, ils n'ont pas tant de possibilités que ça. Donc, c'est sûr que, aussi, une des grosses participations du festival et des autres aussi, c'est l'envoi des artistes en région.
Que là, ça voyage. Je pense qu'ils vont dans 17 centres d'artistes.
Non,
est-ce que
il y a 32 prestations d'artistes du festival qui vont se faire dans 10 villes.
En 10 villes, je ne sais pas d'où je sortais mon 17.
Ouais, et c'est ce qui est le plus compliqué à organiser, d'ailleurs, même si ça coûte pas tellement. On a une subvention spéciale du Conseil des arts et lettres pour faire ça. Mais c'est sûr que d'envoyer deux artistes à Rouyn-Noranda, faut l'avion, etc. Sinon, le bus, c'est 12 heures, etc., ou 8 heures de Montréal. Bon, après ça, faut les Philippines, faut qu'on fasse rouler en bon québécois les Philippinois pour que ça puisse justifier de payer leur transport, parce que c'est quand même très cher venir des Philippines.
Ben oui.
Donc, ces gens-là, on les présente ailleurs. Ils vont aller à les Philippines, ils vont aller à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Chicoutimi, en plus de venir à Québec. Donc, ils font un peu d'argent là. Ça leur permet aussi de pouvoir aller chercher un financement, ou du moins de trouver, même s'ils n'ont pas de financement, de pouvoir venir au festival d'une manière à ce qui arrive, comme on dit, à zéro. C'est-à-dire que
ça a été rentable.
C'est ça.
Là,
ça
c'est
peut
pas,
être rentable
c'est pas une
un
dépense.
Peu. Mais sinon, on ne saurait pas comment faire non plus là, pour inviter les gens de contrées difficiles et loin, lointaines comme ça.
Puis aussi, ça fait rayonner la rencontre internationale d'art performance. Ça diffuse aussi
mais
la performance.
Mais pas juste ça,
c'est
qu'il y a des endroits comme à Trois-Rivières, par exemple, ils font un mini-festival avec des gens locaux.
Ben ouais.
Donc ça permet, et c'est arrivé à plusieurs reprises, que des gens qu'on avait envoyés en région, par la suite, les gens des régions sont allés dans des festivals dans les autres pays. C'est arrivé régulièrement, des gens d'Alma, par exemple, parce que à Alma, ils ont pris des artistes du festival depuis très nombreuses éditions. Là-bas, il y a des professeurs qui donnent des cours de performance au Cégep. Donc, c'est sûr, ils ont notre collection vidéo complète au Cégep d'Alma. Donc, ils sont très stimulés par ça. Et à ce moment-là, il y a des gens qui se sont ramassés aussi à faire des performances en Pologne, parce qu'il y avait des Polonais qui sont allés, etc. Donc, ça nous permet aussi d'accentuer du moins cette notion de réseau, de connexion et de communication entre les artistes et la performance nous permet beaucoup aussi de faire ça.
Peut-être en terminant, Richard Martel, il nous reste une minute. On n'avait pas le temps de parler de toutes les performances. On sait que c'est de chacun des pays, mais il y en a une, entre autres, qui pique votre curiosité particulièrement, que vous dites, là, celle-là, là, j'ai assez hâte de voir ça, ou une soirée peut-être, ou...
Ben, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup que je connais pas.
Donc,
c'est ça. De beaucoup que je connais pas. Mais une chose qui m'intrigue un peu, c'est le groupe de Winnipeg, qui est un groupe, il y a une maison des artistes francophones là-bas. Donc, c'est un groupe qui s'appelle The New Absurds. Ils sont quatre. Et donc, je pense que c'est deux francophones et deux anglophones, deux couples, et qui font des performances, quatre personnes. Mais je pense que ça va être très... pas spectaculaire, mais ça, il va y avoir beaucoup de matière.
Ben, à quatre, hein.
Aussi à quatre, effectivement. Par rapport aux autres, ben c'est comme je vous dis, c'est très intriguant pour moi. Les artistes, il y a le seul que je connais, c'est Mayimbe, l'artiste de Cuba, qui est venu d'ailleurs en 2007 ici, quand on a fait l'échange avec les artistes de La Havane, qui est un artiste important au niveau de la performance. Parce que la performance dans certains pays, c'est quoi? C'est depuis 10 ans, même
ouais,
pas, qu'on en fait, là. Il y a des gens qui viennent juste de découvrir ça, autrement dit. Et notre festival contribue aussi au niveau international à légitimer, du moins, à cette pratique qu'on appelle la performance. Et surtout parce que à chaque édition, on fait une publication et aussi un vidéo. Et on va continuer à le faire.
Voilà. Ben Richard Martel, le directeur artistique de la Rencontre internationale d'art performance, merci beaucoup.
Ça commence le 11.
Ça commence donc du 11.
À la
11,
salle multi.
Salle multi cette année, c'est vrai. Du 11 au 14 et du 18 au 21. Pour plus d'informations, on écrit RIAP dans Google et la première entrée nous amène...
RIAP2014.org.
Ah bon, ben voilà, encore plus simple.
RIAP2014.org, on m'a ordonné de le dire à deux reprises. Bon. RIAP2014.org, troisième reprise.
Voilà. Donc
merci
on s'en
à CKRL.
Va. Merci, on s'en va en pause. Au retour, on discute avec Jean-Tienne La France.
Vous écoutez CKRL 89.1 Québec.
La lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, la lune est pleine, elle est remplie de coraux. Et l'archipel, et l'archipel, et l'archipel est découpé par mes ciseaux. Je vois la peine, je vois la peine, je vois la peine du secret dans le tombeau. Je
Le 28 septembre prochain, pourquoi ne pas courir pour une bonne cause? La course de la Cité Limoilou vous invite à découvrir le parcours le plus urbain de Québec. Peu importe votre niveau, allez-y à votre rythme et choisissez votre parcours de 5 ou 10 km. Réservez votre dimanche 28 septembre de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitélimoilou.ca. Les bénéfices recueillis iront à des organismes communautaires. La course de la Cité Limoilou vous est présentée par la Société de développement commercial 3e Avenue, Actev, la Pharmacie Brunet et la Caisse des Jardins Limoilou. Courez pour aider.
Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 14 septembre, 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5 $. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL.
Demain, dès 17h30, écoutez l'émission en direct du Sacrilège, présentée au Sacrilège. C'est évident. Danny Placard présente son nouvel album, Santa Maria.
Pour l'occasion, CKRL, Simon Rickards et Local 9 vous offrent la chance de gagner un spectacle privé de Danny Placard dans la région de Québec le samedi 13 septembre prochain. Soyez à l'écoute des matins éphémères, de change de disque et assistez à l'émission en direct du Sacrilège pour avoir une chance de gagner votre forfait pour 6 personnes, incluant hot dog et breuvage. Un spectacle privé de Danny Placard dans un lieu mystère, seulement à CKRL.
Pour célébrer le 375e anniversaire de l'arrivée des Augustines et des Ursulines à Québec, l'International des musiques sacrées de Québec présente Handel et Vivaldi, Gloria pour le Nouveau Monde, avec Karina Gauvin, les violons du roi et l'organiste Don André Laberge.
Le vendredi 12 septembre à 20h au Palais Montcalm, en vente sur le réseau Billettech ou au 525-9777.
Vous possédez une carte de membre de CKRL?
Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Tea & Lounge au 67 René Lévesque Est.
La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique.
Il est 18h, on entame déjà cette deuxième demi-heure de cette première émission de l'aérospatiale pour la saison d'automne 2014. J'accueille à l'instant Jean-Tiane Lafrance. Bonjour Jean-Tiane.
Allô Julie, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, ça va bien.
C'est un plaisir de te revoir après cet été, ce long été de pause.
Pareillement.
T'es allé faire un tour à la bande vidéo, aller voir l'exposition Les œufs, parce que si je dis les œufs, on dirait...
Mais moi j'aime dire les œufs.
Les œufs, oui.
Ouais, j'aime dire les œufs, il y a quelque chose d'un peu... confondant, hein. Mais oui, c'est ça, c'est les œufs, c'est les œufs et les ailes, parce que en fait c'est un groupe de personnes qui sont ramassées en tas, comme toutes imbriquées les uns dans les autres, et qui sont filmées de très très près. Donc on n'a jamais une vue d'ensemble de ce groupe-là, de ces œufs. Donc, dans la bande vidéo, on entre un rideau qu'on doit contourner et la projection se fait sur le mur du fond à droite. Ça prend tout le mur. On peut s'asseoir sur le tapis et une petite photo aussi qui accompagne la projection. Mais c'est vraiment la projection qui prend toute la place, qui nous fascine. En fait, le son est très très présent. Alors dès qu'on entre, on entend ce son-là, donc des prises de son qui rendent compte de des frottements de ces gens qui sont tout imbriqués les uns dans les autres, qui se situent en fait dans un pit de sable en bon français. On le voit à cause de la photo, mais c'est très très confus. On voit toujours des parties de visage, des parties de membres et des gestes qui se répètent. Donc on imagine que l'artiste a établi des règles au début, tel geste,
comme des motifs,
oui,
finalement, qui viennent ponctuer,
exactement,
la vidéo.
Des gestes qui se répètent, des choses comme enterrer les pieds d'un autre, tirer sur les lobes d'oreilles, caresser les lobes d'oreilles d'une autre personne dans le groupe, déposer du sable sur l'autre, lacer la chaussure de l'autre. Il y a des enlacements par derrière, donc on voit des mains qui viennent se croiser devant le torse de quelqu'un, les mains de l'autre. Donc, tapoter de l'index dans le dos, sur l'épaule. Et on entend ces tapotements-là.
Les caméras très près.
Oui, les caméras sont très près, mais la prise de son aussi est très près. Donc, on entend...
Ça, je voulais dire.
Oui, c'est ça. Donc, on entend toutes ces choses. Et puis, on entend un peu comme un bruissement constant, les vêtements qui se frottent, le sable, les corps qui se frottent dans le sable. Ça fait un peu comme quand on écoute la mer dans un coquillage, hein, l'espèce de chuchu.
Un son vraiment organique.
Oui, une espèce de son de base. Et puis, il y a très peu d'accessoires à part les vêtements. Donc, les vêtements sont sont touchés, sont manipulés. Donc, on a à un moment donné une fille qui mord le t-shirt, le gaminet de quelqu'un en tirant. On joue avec les vêtements féminins, d'habiller, de déshabiller l'autre, mais sans jamais que ça soit érotique. Il y a vraiment quelque chose de très... Les expressions des visages ont une espèce de... sont comme absorbés, un peu concentrés dans la performance. Puis c'est très intergénérationnel aussi. Il y a une enfant, il y a des cheveux gris, et c'est très diversifié aussi comme groupe. Donc les gens qui vont aller pincer la joue de l'autre, qui vont glisser l'index sur l'épaule. Donc plein de gestes comme ça qui sont assez énigmatiques, qui peuvent être dérangeants aussi pour certains. On n'est pas nécessairement à l'aise avec une proximité là, et à cause de la proximité de la caméra, on devient un peu comme la caméra, on s'insère un peu en tant que spectateur dans le groupe, on regarde de très près.
C'est un peu comme si on scrutait aussi là, d'être aussi près.
Oui, exactement. On a quasiment l'impression de ne prendre part tellement,
ouais.
De tellement c'est prêt, puis il y a comme cette intimité là peut générer un peu une espèce de malaise. Je parlais avec Maria qui surveille la galerie, puis des gens qui étaient très mal à l'aise de voir l'œuvre. Moi je suis juste sublimée par la poésie, mais ça c'est autre chose. Et puis, il y a très peu d'accessoires si on compare avec les œuvres antérieures de Jacinthe Carrier, dans lesquelles il y a beaucoup de les vêtements prennent beaucoup de place, mais également des accessoires, des lampes, des objets qui sont manipulés par les gens de manière un peu absurde ou surréaliste dans des espaces inhabités, mais souvent reconnaissables. Donc on va retrouver des chemins de fer, des choses comme ça, alors que là on est dans un espace où on perd un peu les références. Bon, évidemment les plans rapprochés, il fait qu'on voit peu l'environnement autour, mais que ça soit seulement que du sable, on pourrait être dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel pays, on pourrait être dans un... Ça évoque le désert, ça évoque la plage, ça évoque...
Le pit de sable,
oui,
justement.
Oui, le pit de sable. C'est sûr qu'avec la photo, ensuite, on reconnaît le pit de sable.
On contextualise,
mais quand même, il y a cette espèce d'espace neutre dans lequel on peut projeter là beaucoup de choses. Et puis...
Mais qui appelle à imaginer aussi cet espace-là. S'il n'y avait pas la photographie, tu sais, les gros plans laissent peu de place à imaginer, parce qu'on voit ce qui se passe, mais l'esprit continue à...
Oui, et la photographie, ce qu'elle représente, c'est le après. Donc, on a simplement un plan plus éloigné de cette espèce de nid qu'ont laissé toutes ces traces laissées par les corps dans le sable. Et on peut remarquer que c'est dans un lieu qui est en pente. Donc, on peut sentir aussi toute la tension, oui, de ces corps qui viennent s'imbriquer, qui viennent se taquiner. Hein, ils se taquinent. Je te tire le lobe, je te tape sur l'épaule. On se joue avec les cheveux aussi, beaucoup. Ces corps qui se taquinent, qui ont formé cette espèce de trace d'empreinte commune dans le sable, mais aussi cette tension qui est créée par le glissement. Hein, dans le sable, on glisse, donc cette pente qui pourrait donc amener par la gravité à amener les gestes à être un peu plus tendus. On voit aussi souvent des pieds qui traînent dans le sable, mais tout ça en plan très rapproché. Et puis on a de la difficulté aussi à saisir si le montage est chronologique ou il ne l'est pas. Puis si on se concentre un peu, on se rend compte que le montage, il est très raffiné, mais il est pas du tout chronologique. Donc on peut voir certains raccords parfois qui font ah ok, non, ça se peut pas que ce plan là et ce plan là se suivent chronologiquement. Donc il y a une espèce d'imbrication des corps, mais également des plans.
Oui, dans le montage qui évoque finalement l'imbrication des corps.
Comme une espèce de tas, si on veut, là, un tas de personnes, de corps humains, mais également un tas de plans qui viennent décrire ou rendre compte de ça. Moi, ça me faisait penser un peu au concept d'hétérotopie de Foucault.
Ouais.
Donc, de Foucault... Donc, qui a déterminé ce concept-là, qui est comme une espèce de lieu à l'intérieur d'une société qui vont obéir à des règles qui sont autres, hétéros, donc autres. Donc, il fait référence à des stades sportifs ou des choses comme ça, des événements. Mais je trouvais que c'était intéressant par rapport au travail de Jacinthe Carrier, qui, je considère, est un peu comme un travail hétérotopique. Elle va créer... un moment comme ça, un lieu, elle va établir des règles au départ et c'est des êtres humains qui vont se plier à ces règles-là qui sont autres. Donc les règles, c'est tu vas jouer après les lobes d'oreilles des autres, tu vas tapoter sur l'épaule de l'autre, tu vas jouer avec les cheveux, tirer les chaussettes, lasser les chaussures, enterrer. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis aussi, un des éléments de l'hétérotopie de Foucault, c'est l'hétérochronie. Donc, c'est comme une espèce de rupture avec le temps réel. Et puis ça, on le sent vraiment en assistant, en prenant part à cette projection-là, c'est qu'on vient qu'à perdre toute référence de temps avec ce montage-là qui nous déconcerte un peu, où on se demande si ça suit, non, ça suit pas. Donc, on a vraiment une espèce de damassie de temps comme ça qui vient comme juste un peu se superposer. Bref, c'est touchant. C'est une œuvre qui est très touchante, évidemment. On peut pas vraiment attendre plus de Jacinthe Carrier.
Autre chose,
de Jacinthe Carrier. Toujours des œuvres très touchantes, plus près du corps que ce que j'avais vu auparavant. On dirait qu'il y a quelque chose. On laisse tomber les accessoires. Il y a un seul accessoire dans la performance, c'est une bouteille d'eau. Donc, à voir, présenté à la bande vidéo jusqu'au 10 octobre.
Voilà. Jean-Tiane termine et elle est sans mots. Jean-Tiane La France, merci beaucoup. On se revoit très bientôt. Donc, l'invitation est lancée. On fait une pause audio, on écoute Tormented by Tofu. Mon Dieu, j'aimerais bien l'être. Voilà, c'était Tormented by Tofu de Tuonela, tiré d'un album intitulé An Error Occurred While Processing This Directive. À l'aérospatiale aujourd'hui, on est allé du côté de l'art performance, on est allé du côté de l'art vidéo, et là, on fait un retour pas mal aux sources de l'art occidental avec l'exposition Les Maîtres de l'Olympe qui est présentée au Musée de la Civilisation de Québec. Pour nous en parler, Thérèse Beaudoin, conservatrice, bonjour.
Oui, bonjour.
Et là, l'exposition, elle a commencé au printemps passé. On n'avait malheureusement pas eu le temps de se parler. Mais je suis curieuse de savoir, je pense que ça fonctionne, hein, cette exposition-là. Il y a pas mal de monde qui y va.
Oui, mais avant toute chose, je voudrais vous dire que je ne suis pas conservatrice de l'exposition, chargée de projet de l'exposition. Okay. C'est un peu différent. Oui. Et oui, c'est une exposition qui a commencé le 23 avril dernier et qui va durer jusqu'au 15 mars 2015. Et c'est une exposition qui fonctionne très bien, qui est très intéressante et qui touche quand même une partie de notre histoire là qui est le début de la civilisation, en fin de compte. Là. Parler de des civilisations grecques et romaines, c'est quelque chose qui nous touche énormément.
L'exposition donc présente les douze maîtres de l'Olympe, donc les douze dieux principaux de la mythologie gréco-romaine. Dans l'exposition, on présente justement cette mythologie-là, dont sont à l'origine Hésiade et Homère, mais sans nécessairement distinguer gréco-romain, c'était volontaire, j'imagine, donc d'en faire un tout.
Non, mais il faut dire que nous, ce qu'on leur présente, c'est une réception de pièces, d'œuvres qui viennent du Musée des Antiquités de Berlin. Donc, eux ont fait une sélection en rapport avec les maîtres de l'Olympe, par rapport à 12 dieux principaux, parce que la mythologie grecque, elle est très vaste et il y a énormément de dieux et de déesses. Il y en a 12 principaux là, qui ont été sélectionnés. Donc, nous, dans l'exposition, c'est ceux qu'on présente principalement.
Et voyons, oui, c'est ça, c'est donc la collection des musées nationaux de Berlin. C'est la première fois qu'elle est exposée en Amérique. C'est quand même pas rien. Hein. J'imagine qu'il y avait tout un événement autour de ça au musée.
Oui, exactement. Puis on est très privilégiés. Puis je dirais que tous les citoyens puis la population qui peut venir visiter l'exposition, on est très privilégiés de pouvoir voir ces œuvres-là parce que le musée des Antiquités de Berlin est un des plus grands musées de collection d'œuvres d'art gréco-romaine. Donc, c'est vraiment très... On est très privilégié de pouvoir voir ces œuvres-là parce que la plupart ne sortent très peu. Et aussi, un aussi grand nombre, on a 163 œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Et c'est rare qu'une grande quantité d'œuvres peuvent sortir d'un même musée.
Et ça doit être quand même un défi hein, au niveau du transport, des assurances, etc. Là, on parle vraiment d'œuvres très anciennes, donc de travailler avec leur fragilité, la conservation et tout ça.
C'est sûr qu'on travaille avec des œuvres dont la majorité, sur les 163 pièces qui sont présentées, on en a une soixantaine qui sont en marbre. Donc, c'est sûr que c'est très fragile. Ce sont des pièces qui sont aussi très lourdes et qui sont aussi très grandes. Donc, ça a effectivement demandé une logistique très importante pour protéger ces œuvres-là.
L'exposition, j'ai envie de parler un peu de la mise en scène de l'exposition. Il y a un caractère qui est assez magistral, hein, donc des œuvres qui sont en elles-mêmes magistrales, mais dont ce caractère-là est accentué par une scénographie qui, je dirais, est assez spectaculaire.
Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on a voulu, c'est mettre ces œuvres-là en valeur. Donc, tout l'espace est consacré à la mise en valeur des œuvres, de ces œuvres-là. Sauf que, on a voulu créer un peu une montée vers l'Olympe. Donc, les visiteurs peuvent grimper sur une rampe. Donc, ils montent sur une rampe. Les chaises roulantes peuvent y aller. Il n'y a aucun problème. Là, c'est très sécuritaire. Donc, on est en présence des 12 dieux. Et c'est une montée vers le ciel. Donc, c'est une montée très symbolique, mais vers le mont Olympe. Donc, on a un immense ciel qui est représenté dans la salle avec cette montée tranquillement et qui nous présente chacun des 12 dieux. Il faut dire que c'est une mise en scène là qui est vraiment très belle parce que chacune des œuvres est accompagnée d'une reproduction d'une peinture à l'intérieur de laquelle on peut voir une représentation de ces dieux et de ces déesses à travers le temps représentée par différents peintres du 17e, 18e, 19e siècle.
On peut voir justement l'évolution de cette iconographie là aussi, comment on le représente à travers le temps.
Oui, tout à fait. Et c'est important de mentionner que cette mise en scène a été faite par un scénographe qui travaille, qui vient de Montréal, qui est Daniel Castonguay, et qui collaborait avec une firme de design de Québec, Bisson et Associés, avec qui on a travaillé et qui vraiment ont vraiment compris le sens de ces œuvres et vraiment leur ont créé un espace pour vraiment les mettre en valeur pour que le visiteur puisse les apprécier.
Effectivement, puis ça crée comme une espèce de... pas un clair-obscur, là, mais ça dégage comme une ambiance un peu sacrée aussi dans l'exposition.
Oui, on se sent, c'est un endroit qui est très calme, où on peut vraiment apprécier les œuvres pour chaque œuvre, mais en apprendre aussi, parce qu'on apprend beaucoup sur chacun des dieux, parce qu'il y a des textes qui accompagnent, et il y a aussi une bande sonore qui accompagne avec les deux, une bande sonore là, dans laquelle on retrouve deux poètes, Homère et Hésione, qui, eux, nous présentent à leur manière ce qu'ils pensent de ces dieux-là et comment est-ce qu'ils les ont mis en scène.
Excusez-moi, j'étais en train de boire une gorgée d'eau en vous écoutant. Qu'est-ce qui vous frappe ou qui vous a frappé, en fait, quand vous avez regardé cette exposition-là? Est-ce que c'est comme l'actualité de son propos sur le fait que plus de 2000 ans plus tard, ben c'est toujours assez semblable?
Ce qui est très impressionnant, c'est de voir ces œuvres-là qui sont intactes. C'est sûr que parfois le nez est cassé, mais de manière générale, on a des œuvres d'une très grande qualité esthétique et en plus d'une très grande qualité historique. Parce qu'il y en a eu énormément de sculptures qui ont été faites à l'époque des Grecs et des Romains, mais plusieurs ont été brisées avec le temps. Mais nous, ce que l'on présente, c'est vraiment une collection vraiment très intacte, donc qui est vraiment une très grande qualité esthétique. Ce qui est impressionnant, c'est de voir la qualité de des sculptures qui sont présentées là, parce qu'on ressent toute la charge émotive qu'ont pu représenter les dieux et les déesses.
Puis aussi, c'est de se rappeler souvent, c'est en marbre, c'est de se rappeler que c'est du marbre, parce que c'est très vivant.
Oui, c'est très vivant. On a l'impression que ces œuvres-là, même si c'est un matériau qui est rigide et qui est froid, parfois on regarde la qualité d'exécution et on a vraiment l'impression que on a une danseuse qu'on appelle la danseuse berlinoise. Elle, on a vraiment l'impression qu'elle est en mouvement, alors que c'est vraiment une sculpture de marbre.
Le Musée de la civilisation, pour l'occasion, a fait la restauration. Je pense que c'est de deux pièces, hein, c'est ça?
Oui, on a contribué, c'est une manière d'aider et de contribuer un peu aux collections des musées de Berlin qui ont une très grande collection, ils ont énormément de pièces et lorsqu'ils nous prêtent leur collection parce que c'est un prêt, nous on a contribué à restaurer deux pièces qui sont vraiment deux pièces majeures. Donc ces pièces-là ont été quand même restaurées à Berlin dans les ateliers de restauration du musée, mais ce sont vraiment deux pièces très importantes que l'on peut voir.
OK, donc ce ne sont pas des restaurateurs de Québec là, qui ont travaillé sur cette restauration-là?
Non, c'était fait, elles ont été restaurées à Berlin même.
OK, donc financées finalement par le musée de le musée de la civilisation.
Oui. C'est une contribution que le musée peut faire pour le prêt de l'ensemble de la collection qui nous a été prêtée.
Surtout considérant là, tout le travail que ça a impliqué de déplacer le tout. Dites-moi, est-ce qu'il y a une ou deux pièces qui vous parlent particulièrement?
Je dirais que la majorité des pièces, chaque pièce a une charge émotive particulière ou un intérêt particulier, tout dépendant aussi des intérêts que les visiteurs peuvent avoir. Mais je dirais que c'est sûr qu'il y a des pièces majeures, comme la sculpture de Zeus. C'est une pièce qui est reconnue à travers les collectionneurs, à travers les musées, comme étant une pièce majeure. Donc, pour sa qualité d'exécution, mais aussi pour la représentation du dieu en lui-même. Donc, il y a plusieurs pièces comme ça, mais ça dépend vraiment, là, il y a vraiment un côté de l'intérêt du visiteur et de son goût par rapport aux sculptures.
Oui, bien entendu. Eh bien, Thérèse Beaudoin, donc chargée de projet au Musée de la civilisation, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir et j'invite tout le monde à venir visiter l'exposition.
Voilà, donc les maîtres de l'Olympe, trésor des collections gréco-romaines de Berlin au Musée de la civilisation jusqu'au 15 mars. On fait une pause, on écoute Salomé.
Yeah.
Cette première édition de l'aérospatiale tire déjà à sa fin. Avant de vous quitter, comme à chaque émission, je vais vous présenter quelques événements du calendrier. Jeudi à 17h à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval, c'est le vernissage de l'exposition d'Andréane Jacques et de Nathalie van der Keven. Vendredi à 17h à Materia, vernissage de l'exposition de France Gonon et Vera Vicente Céramique. On en a parlé en début d'émission, c'est la rencontre internationale d'art performance, donc c'est une biennale qui a lieu aux 2 ans. Cette année, les soirées sont à la salle multi, elles débutent à 20h. Jeudi 11 septembre, c'est une soirée Canada. Vendredi, c'est une soirée Pologne. Et samedi, c'est une soirée Philippine. Également, si vous êtes allé voir une ou plusieurs des soirées ou aucune, mais que vous vous intéressez à voir quels liens peuvent entretenir les pratiques de ces différents pays, vous pouvez aller au lieu à 13h. Également, le lieu, on n'en a pas parlé pendant l'entrevue, mais il y a une exposition rétrospective sur quand même les 17 premières éditions de la RIAP. Donc, ça vaut la peine pour voir un peu qu'est-ce qui s'est fait dans le passé. Aujourd'hui, je vous redonne ce qu'on a écouté en pause audio. Donc, tu en es là. An error occurred while processing this directive. C'était une suggestion de Simon Roy. Vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Également, les liens pour l'émission, la revue de presse de Raymond Poirier, les communiqués de presse et l'émission sera disponible en balado diffusion. Sur ça, c'est l'heure de la fin de l'émission. Je remercie Jacques Gignac à la mise en onde. Je remercie mes invités et collaborateurs. Et je vous laisse entre très bonnes mains avec Gilles Chaumel et son folk d'Amérique.